Vous écoutez RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin,
Jérôme Chapuis.
Et à 8h, c'est le journal de Julien Cellier. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Ne surtout pas tomber dans le piège de Daesh. Les représentants des différents cultes affichent leur unité en ce moment même à l'Élysée.
Entretien à l'invitation de François Hollande au lendemain de l'attaque de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Le président dirigera dans 45 minutes un nouveau conseil de sécurité et de défense et il devra répondre aux offensives matinales de Nicolas Sarkozy. En Normandie, l'heure n'est pas à la polémique, mais au recueillement. Des bougies ont été déposées cette nuit devant la maison du père Hamel, 86 ans, égorgé hier. Incompréhension totale dans cette banlieue de Rouen. L'un des assaillants a été identifié. Adèle Carmiche, fiché S, avait 19 ans et portait un bracelet électronique.
Je vous donne un rendez-vous juste après ce journal à 8h15. L'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, sera avec nous. Il est en charge dans son diocèse de Saint-Étienne-du-Rouvray, la ville où s'est produite le drame hier. À suivre également dans ce journal, la courbe du chômage qui refuse de s'infléchir.
Et puis Bill Clinton, potentiel futur first gentleman et premier soutien de sa femme Hillary dans la course à la Maison Blanche.
RTL Matin.
Et donc l'histoire qui se répète inlassablement, nouveau conseil de sécurité et de défense ce matin à l'Élysée.
Le deuxième, en moins de 15 jours après le carnage de Nice, il faut encore répondre à la barbarie. Ce conseil se tiendra à 8h45, mais en ce moment, Olivier Bost, le chef de l'État, reçoit les représentants des différents cultes.
Oui, et ce n'est pas une réunion seulement symbolique. Ce moment est très important pour l'Élysée au lendemain de ce nouvel attentat. Hier, c'est la religion chrétienne qui a été visée et touchée, mais à travers elle, et c'est ce qu'a répété plusieurs fois déjà François Hollande, à travers elle, ce sont tous les Français. L'une des craintes, très clairement, pour le gouvernement, c'est de voir la société se fissurer, de voir s'installer dans les têtes une guerre des religions. François Hollande l'a aussi répété plusieurs fois depuis hier. Nous devons faire bloc, rester unis pour ne pas donner une victoire aux terroristes. Faire bloc, c'est ce que feront très certainement tous les représentants des religions, chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes, tout à l'heure à leur sortie de l'Élysée.
Olivier, que faut-il attendre du Conseil de sécurité et de défense? François Hollande a déjà prévenu hier soir, restreindre nos libertés affaiblirait la cohésion de la nation.
Oui, ces conseils de sécurité se sont répétés après chaque nouvel attentat et effectivement, depuis Nice, il n'y a en fait plus d'annonces, plus de nouvelles mesures. Là aussi, très clairement, le choix est fait par François Hollande de ne pas partir dans une forme de surenchère sécuritaire. À l'Élysée, les proches du chef de l'État sont très très clairs. La France peut gagner la guerre contre le terrorisme sans renier sur nos libertés, sans s'attaquer à notre Constitution, sans remettre en cause les fondements de notre démocratie. Là aussi, il s'agit de ne pas donner raison aux terroristes. François Hollande se distingue aussi des prises de position très offensives de Nicolas Sarkozy. Il ne faut donc pas attendre grand-chose de ce Conseil restreint de sécurité.
François Hollande qui est effectivement sous pression puisque Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, se place sur le terrain de la polémique ce matin.
Oui, dans une nouvelle interview au Monde, le président des Républicains continue de mettre la pression sur François Hollande. Il demande la vérité au gouvernement sur les failles de surveillance et sur les failles de sécurité à Nice comme à Saint-Étienne-de-Rouvray. Pourquoi des individus fichés S étaient-ils en liberté, demande ce matin Nicolas Sarkozy. Il accuse François Hollande de ne pas avoir pris la mesure de ce qui se passe depuis janvier 2015, depuis l'attentat de Charlie Hebdo. La gauche est tétanisée, dit Nicolas Sarkozy. Elle s'accroche à un discours qui ne correspond plus pour l'ancien chef de l'État à la réalité. Depuis l'attentat d'hier et après celui de Nice, vous le voyez Julien, c'est une guerre contre le terrorisme qui continue et c'est une bataille politique qui a bel et bien commencé.
Olivier Bost à l'Élysée pour RTL et puis autre proposition venue de la droite, François Fillon à l'instant sur RTL, redemande l'activation du livre 4 du Code pénal qui permet de reconnaître d'une certaine manière juridiquement l'état de guerre et donc de poursuivre plus facilement les personnes qui se rendent en Syrie ou en Irak pour combattre contre les intérêts de la France. Et puis François Fillon qui propose aussi une armée numérique pour lutter contre la propagation des contenus islamistes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Pendant ce temps-là, Julien Cellier, à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'heure est encore au deuil et à l'émotion.
Des bougies, des fleurs ont été déposées cette nuit devant la maison de Jacques Hamel, le prêtre égorgé hier par les terroristes. Il avait 86 ans. Par ailleurs, ce matin, le paroissien poignardé à côté du prêtre reste très grièvement blessé.
L'enquête, elle, continue pour mieux cerner le profil des deux assaillants.
Des assaillants abattus par les forces de l'ordre, Daesh a très vite revendiqué leur attaque et l'un des deux meurtriers a été rapidement identifié. Son nom, Adèle Carmiche, fiché S, à peine majeur. Sa famille avait signalé sa radicalisation début 2015. Il avait tenté par deux fois de rejoindre la Syrie et son passage à l'acte ne surprend pas son entourage. Julien Caillard a rencontré certains de ses proches pour RTL.
Je suis pas étonné. Parce qu'il m'en parlait tout le temps. Il parlait de l'islam, de tout en fait. Qu'il allait faire des trucs comme ça. Mais le Coran de la Mecque, il m'a dit je vais attaquer une église. Le Coran, il m'a dit ça il y a 2 mois. Quand on sortait de la mosquée, il m'a dit ça, le Coran de la Mecque. Non, je l'ai pas cru. La vie de ma mère, je l'ai pas cru. Il m'a dit beaucoup de choses.
C'était un mec du collège Paul-Éloire, un jeune comme nous. Quoi. Je comprends pas pourquoi il a basculé dans tout ça. Moi, le seul truc que j'ai à dire, comme je répète depuis tout à l'heure, il s'est fait retourner le cerveau.
Un des propos recueillis par Julien Caillard pour RTL. Revenons maintenant sur le profil d'Adel Karmiche, très jeune, donc 19 ans. Contrairement au tueur de Nice, il s'était radicalisé depuis de longs mois. D'ailleurs renvoyé en France après ses tentatives de départ en Syrie, il avait été mis en examen et écroué, Guillaume Chiez.
Oui, première tentative pour rejoindre la Syrie en mars 2015. À l'époque, les frères Kouachi viennent de frapper Charlie Hebdo. Adel Karmiche, pas encore majeur, est fasciné par l'événement. Il entre en contact avec plusieurs djihadistes à l'étranger sur Internet, vole la carte d'identité de son grand frère. Mais son voyage se termine en Allemagne, arrêté à la frontière, envoyé en France. Il va attendre 2 mois et la majorité pour partir à nouveau. Cette fois, c'est en Turquie, en possession des papiers d'identité de son cousin, que Karmiche est arrêté. Retour en Normandie, incarcéré dans l'attente de son jugement pour association de malfaiteurs et préparation d'actes terroristes. Adel Karmiche est autorisé il y a 4 mois à réintégrer le domicile familial avec un bracelet électronique. Sauf que sa fascination pour Daesh n'a jamais cessé. Karmiche reprend contact avec des combattants syriens sur Internet, toujours sous l'influence du groupe terroriste. Une influence que l'on retrouve jusque dans son mode d'action, puisqu'hier, alors qu'ils égorgeaient le père Hamel, Karmiche et son complice ont filmé toute la scène à la manière de ce que produisent les combattants de Daesh. Une vidéo qui, semble-t-il, n'a pas eu le temps de parvenir jusqu'aux djihadistes syriens.
Alors, vous l'avez dit, Guillaume, la détention provisoire d'Adel Karmiche avait été levée en mars dernier. Le jeune homme était depuis assigné à résidence chez ses parents avec un bracelet électronique, bracelet qui ne permet pas à Gauthier Delambugard d'empêcher de tels actes.
Oui, c'est le juge des libertés qui accorde le placement sous bracelet électronique. À ce moment-là, une sorte de contrat est établi avec notamment des horaires d'autorisation de sortie. Clarisse Taron préside le syndicat de la magistrature.
D'après ce que j'ai compris, il avait le droit de sortir de 8h30 à 12h30. Quand il peut sortir, il peut sortir. On ne sait pas s'il est au Franprix, au cinéma ou en train de commettre des actes affreux.
À ce moment-là, il n'y a donc aucune géolocalisation à l'aide du bracelet. En revanche, le dispositif est actif le reste du temps. L'homme doit rester à son domicile. Sinon, l'alarme du bracelet qui est accroché à sa cheville se met en route et alerte directement les autorités. Dans le cas de cet homme, lorsqu'il entre dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, il est donc dans ses heures légales de sortie. La question désormais, c'est pourquoi cet homme, mis en examen dans une affaire de terrorisme, a obtenu l'autorisation de sortir de prison sous contrôle judiciaire. D'autant plus que cette autorisation est très rare en matière de terrorisme.
Plus de 90% des personnes mises en examen par la section antiterroriste sont en détention provisoire. C'est un domaine où, contrairement à ce que la règle prévoit, la détention provisoire est en tout cas bien plus courante que la liberté.
Pourtant, les juges ont autorisé le placement sous bracelet électronique, et ce, malgré l'opposition du parquet antiterroriste.
Gauthier Delambugard pour RTL. En tout cas, depuis cette attaque, les fidèles de la mosquée de Saint-Étienne-du-Vouvray sont contraints de se défendre.
L'instance régionale du CFCM affirme avoir signalé la radicalisation d'Adel Karmiche et refuse tout amalgame. Il faut dire que dès hier soir, sur RTL, François Bayrou a évoqué des dérives salafistes au sein du lieu de culte. 4 islamistes avaient déjà été arrêtés en 2014 dans cette ville, mais la communauté locale, Frédéric Veil, nie en bloc les accusations.
Depuis plusieurs mois maintenant, les autorités ont un œil sur cette mosquée dont certains disent qu'elle serait à tendance salafiste, ce que réfute Amir.
Moi, je la fréquente depuis un petit bout de temps. On n'est jamais venu me voir pour des pensées extrémistes ou quoi que ce soit. J'ai jamais entendu comme quoi il y avait des pensées salafistes. Ça a toujours été vraiment l'islam que j'aime, que je pratique, pas d'islam radical ou quoi que ce soit.
Pourtant, fin novembre 2014, le démantèlement d'une filière djihadiste en Normandie avait permis d'interpeller plusieurs individus qui fréquentaient cette mosquée et qui étaient soupçonnés de vouloir se rendre en Syrie. Rien d'étonnant à cela pour cette femme qui habite à 2 pas de la mosquée.
Je ne fréquente pas la mosquée. Par contre, je pense qu'il faut à un moment donné rentrer dedans puis aller voir ce qui se passe, quoi. Mais c'est pas que dans la mosquée. Ça peut être dans la mosquée, ça peut être au café, ça peut être dans la rue. Hein. Ça se passe partout. Bah, on a vu des jeunes du jour au lendemain faire la prière, du jour au lendemain on les retrouve en djellaba à la mosquée, je vais faire la prière. Ouais. Saint-Étienne, il y a beaucoup de jeunes qui ont changé du jour au lendemain.
Des jeunes comme l'un des 2 auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Frédéric Veil pour RTL. Le CFCM, lui, Conseil français du culte musulman, dénonce un acte horrifiant et terrifiant. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives, condamne un assassinat odieux.
Immense solidarité donc avec la communauté catholique.
Le pape a d'ailleurs fustigé un meurtre barbare. Une messe à l'intention des victimes sera célébrée à Notre-Dame de Paris ce soir. Émotion très forte aussi à Cracovie, en Pologne, où des pèlerins du monde entier sont réunis pour les Journées mondiales de la jeunesse. Marie Garrier, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL et tous les étudiants français n'ont pas réagi de la même façon hier.
Ils étaient nombreux à chanter et danser dans les rues de Cracovie parce que c'est le sens même des JMJ, disent-ils, malgré le drame.
Tout à l'heure à la messe, il nous a dit « partagez votre foi avec tout le monde ». Et je pense que ça va marcher. Il s'est passé des choses horribles en France, mais aujourd'hui, on est une réunion de chrétiens et on est unis. Il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont venus nous voir en disant « on vous soutient ».
N'importe où dans Cracovie, tout le monde chante, tout le monde est content d'être là.
Ouais. C'est la joie, c'est la joie.
Pour d'autres, l'évidence était de prier, une veillée organisée dans l'église Saint-Nicolas.
De voir qu'ils vont jusque dans nos églises pour assassiner nos prêtres, ça fait vraiment peur.
Et c'est super qu'on soit dans ces moments un peu durs, réunis pour prier ensemble, pour confier l'avenir au Christ.
Les prêtres sont particulièrement bouleversés par ce qui est arrivé à l'un des leurs, mais le père Franck, qui accompagne des jeunes ici à Cracovie, ne veut pas perdre confiance.
On ne va pas barricader toutes les églises, il ne faut pas vivre dans la peur. En tout cas, ma foi, moi chrétienne, m'invite à vivre dans la confiance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, Mais il faut quand même avoir une profonde confiance dans l'humanité, sinon moi je ne serais pas prêtre.
Des petites bougies éclairent l'église où les jeunes prient assis par terre en silence, comme une parenthèse. À l'extérieur, l'espérance s'exprime plus bruyamment.
Marie Garrier, envoyée spéciale de RTL à Cracovie, en Pologne.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce drame. Je vous rappelle l'invité juste après votre journal, Julien Cellier. Ce sera Mgr Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen.
RTL 8h11.
Dans le reste de l'actualité, l'inflexion qui tarde à se confirmer, légère hausse du chômage en juin.
Plus 0,2%, c'est-à-dire 5400 demandeurs d'emploi supplémentaires, Philippe Roy-Contensin.
Oui, c'est une hausse, mais il faut regarder aussi la tendance et elle est relativement plus optimiste. Depuis le début de l'année, le nombre de chômeurs a diminué de 11 000. Mais les chiffres du mois dernier sont tout de même la traduction que le marché de l'emploi évolue difficilement malgré des signes de reprise. Les entreprises reconstituent en priorité leur carnet de commandes avant d'embaucher. Même du côté des jeunes, le chiffre des inscrits évolue négativement en juin. Les 18-25 ans sont 4 000 de plus à Pôle emploi. La situation des sans-emploi de plus de 50 ans continue encore de s'aggraver, en particulier chez les femmes. Fin juin, au total, si l'on tient compte de ceux qui ont des petits jobs, du temps partiel contraint et qui recherchent toujours un emploi, on atteint un total de 5 434 600 personnes inscrites au chômage.
Philippe Roy-Contensin pour RTL. Attention, si vous avez prévu de prendre l'avion aujourd'hui, Air France annule 13% de ses vols. C'est le début d'une grève d'une semaine. Hôtesses et stewards veulent revoir l'accord d'entreprise qui fixe salaire, avancement et règles de travail.
Hillary Clinton est donc désormais officiellement candidate des démocrates. Elle deviendra peut-être le 8 novembre prochain la première femme présidente des États-Unis.
D'ores et déjà, c'est une étape historique, a-t-elle déclaré cette nuit dans une courte vidéo diffusée lors de la convention du parti à Philadelphie, convention où son mari Bill est monté à la tribune. Philippe Corbet, vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Le discours de l'ex-chef de l'État, potentiel futur first gentleman, était très attendu.
Oui, devant des dizaines de millions de téléspectateurs, Bill Clinton commence par raconter une longue histoire.
In the spring of 1971,
au printemps 1971, j'ai rencontré une fille et il se souvient de ces moments de leur bibliothèque universitaire à la Maison Blanche où il a vu cette fille se démener pour changer les choses. La vie est compliquée et c'est dur de vraiment changer les choses, insiste l'ancien président. C'est une réponse directe à Donald Trump qui la caricature en symbole du statu quo à Washington depuis 25 ans et en menteuse. C'est la vraie, elle est vraie. L'autre est fabriqué, répond Bill Clinton aux deux tiers d'Américains qui disent ne pas faire confiance à son épouse. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré de meilleure personne qu'elle pour changer les choses. Le changement et la vérité, ce sont deux faiblesses d'Hillary Clinton que cherche à corriger celui qui veut créer le poste de first gentleman.
Philippe Corbet, envoyé spécial de RTL à Philadelphie. Un mot de football. Monaco joue ce soir le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match aller 20h30 chez les Turcs de Fenerbahçe dans un contexte tendu. 12 jours après le putsch raté, puis les purges décidées par le président Erdogan, par ailleurs supporter numéro 1 du club stambouliote.
C'était le journal de Julien Cellier. Merci.